Chapitre 11. Un an auparavant.
Tu pars pour longtemps, maman ?
2 semaines, ma bichette.
C'est long, 2 semaines.
Je sais. Mais tu seras avec tonton Xavier. Tu vas certainement beaucoup t'amuser.
Ouais. Mais c'est pas pareil qu'être avec toi.
Me répond Meryl en se blottissant dans mes bras. Je n'ai jamais aimé les quais de gare. Ils sont pour moi synonymes de départ, de tristesse et de regards embués. Je les déteste encore plus depuis que, maman, je suis régulièrement contrainte de m'y agenouiller pour dire au revoir à ma fille. Le haut-parleur annonce le départ imminent du train. Je n'ai pas d'autre choix que de me relever pour y monter. Je serre ma fille un peu plus fort, puis je laisse mon frère prendre le relais. Assise à ma place, je sens le train qui s'ébranle lentement. Dehors, ma fille a la tête basse, presque rentrée dans ses épaules. Elle sanglote. Alors que le train prend de la vitesse, j'assiste au spectacle désormais bien trop familier de Xavier qui s'agenouille à son tour, entoure ma fille de ses bras pour tenter d'enrayer le chagrin qui désormais lui secoue le corps. J'ai beau savoir que cela ne va pas durer, que d'ici quelques minutes le rire aura remplacé les larmes grâce à la joie de vivre de Xavier qui s'accorde si bien avec celle de Meryl. Cela n'en reste pas moins difficile. Comme chaque fois, le goût rance de la culpabilité m'emplit la bouche. Celle de ne pas avoir renoncé à mon activité professionnelle après la naissance de ma fille. D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours rêvé de voyage. Lorsque petite, je jouais aux Barbie, c'était pour les faire partir en vacances. Je les entassais dans un camping-car rose aussi volumineux que peu pratique. Je fourrais à l'intérieur toutes leurs affaires, incluant vélo, baignoire et robe de soirée indispensable à la survie en milieu hostile. Puis je faisais rouler le véhicule à travers la maison avant de me fixer sur un endroit et de tout y installer. J'imaginais alors qu'elles avaient pris leur quartier dans un pays lointain qu'il fallait découvrir. Jamais sans leur baignoire, évidemment. Une chance pour elles, dans mon imaginaire, les congés payés dépassaient largement le quota de 5 semaines des salariés lambda pour frôler plutôt un semestre entier. Cette passion des voyages est devenue mon activité professionnelle depuis qu'avec Sam nous avons créé notre propre guide touristique. Sam s'occupe de tous les aspects administratifs et financiers. Elle gère également le marketing et la communication. Et moi, je fais et défais ma valise, prends des avions, dors dans des hôtels. Une vie de nomade qui ne me posait pas de problème, bien au contraire. Jusqu'à ce que je sois enceinte. Je voyais un type depuis 2 mois lorsque je l'ai découvert. 2 petits mois qui n'ont pas résisté aux seins douloureux, nausées et confirmations de grossesse sur bâtonnet. Quant au type, ça ne lui a pris que 3 semaines pour détaler comme un lapin, me laissant là avec le ventre désormais occupé. J'étais jeune, j'avais 26 ans. Son départ ne m'a pas désespérée, ce n'était pas vraiment l'homme de ma vie. Devenir maman ne faisait pas non plus partie de mes plans. D'une part parce que je savais que mon besoin viscéral de liberté était peu compatible avec une vie de couple, d'autre part parce que je n'avais jamais ressenti ce désir d'enfant que certaines décrivent, cette urgence de procréer. Mais étrangement, lorsque la prise de sang a confirmé la présence d'un mini haricot, l'idée de sa disparition m'est devenue insupportable. Alors le haricot est devenu pamplemousse, puis l'échographie a révélé l'arrivée prochaine d'une minette, et Meryl est née. C'est mon frère qui était avec moi le jour de sa naissance. Quand je le raconte, cela choque les gens, même s'ils ne le verbalisent pas toujours. Xavier est pour moi plus qu'un frère. La gémellité explique sans doute cela. Notre lien est parfois difficile à comprendre, voire à accepter. Notre propre mère nous a un jour avoué qu'elle se sentait souvent exclue, reléguée à la 3e place. La présence de Xavier auprès de moi en salle d'accouchement, faute de celle d'un papa, était une évidence. Les soignants ont d'ailleurs cru qu'il était le père et je ne les ai pas détrompés, m'évitant ainsi les regards pleins de pitié que l'on sert aux femmes seules dans ce moment qui se veut normalement un moment de couple. C'est lui qui a coupé le cordon, et je n'oublierai jamais l'amour qui inondait ses yeux lorsqu'il a pris ma fille pour la première fois dans ses bras. Mon frère, qui aime tant les enfants, a choisi lui aussi de faire de sa passion son métier en devenant professeur des écoles. C'est un instinct génial, pédagogue, énergique et plein d'humour. Le seul que je connaisse qui se rende à l'école avec une guitare pour jouer dès qu'il le peut des chansons à ses élèves. Quelques semaines après la naissance, comme pour toutes les mères, la question de la reprise de mon activité s'est posée. Sam a proposé de prendre quelques déplacements à ma place avec en contrepartie un investissement de ma part dans la paperasse, les fesses vissées sur une chaise de bureau pendant 9 heures. Je mentirais en disant que je l'ai envisagé parce que la vérité, c'est qu'à aucun moment dans mon esprit, il n'en a été question. Comme il m'avait été impensable pour moi d'interrompre ma grossesse, il m'était impossible de renoncer, ne serait-ce qu'en partie, au voyage. Pour tenter d'apaiser la culpabilité que je sentais déjà poindre, je me rassurais en me disant qu'il valait mieux pour Meryl avoir une maman certes parfois absente, mais épanouie, plutôt qu'une maman plus présente, mais malheureuse. Mais maintenant, dans ces moments de départ où j'assiste, responsable, aux larmes de ma fille sur le quai, j'avoue qu'il me faut répéter plusieurs fois ces paroles, si possible à voix haute pour m'en convaincre. Heureusement, en mon absence, c'est Xavier qui s'occupe de Meryl. Et je sais qu'il n'y a aucun autre endroit au monde où elle pourrait être mieux traitée que chez mon frère jumeau. D'autant plus qu'il vit dans le même immeuble que moi, un étage au-dessus. Quelques mois avant la naissance de Meryl, un appartement s'est en effet libéré. Xavier a sauté sur l'opportunité. Difficile de faire plus pratique. Il a ainsi pu s'occuper d'elle dès les premiers mois. Meryl était un bébé facile, qui gazouillait presque continuellement, lui laissant du temps pour préparer ses journées de classe avec ses élèves. Xavier aime Meryl comme sa fille et ferait n'importe quoi pour elle. Ce qu'il fait d'ailleurs depuis quelque temps et nouveau des discussions parfois tendues. J'estime que Meryl, à 7 ans, a besoin d'un certain équilibre, autant qu'il soit possible d'en avoir avec mes déplacements. En tout cas, je voudrais pour elle une certaine discipline, faire ses devoirs, manger correctement et se coucher de bonne heure. Xavier, lui, trouve qu'il est bien plus intéressant de faire une sortie cinéma en pleine semaine pour aller voir un quelconque dessin animé en avant-première, avec en prime le plaisir de plonger ses mains dans un immense seau de pop-corn placé entre leurs sièges. Ainsi, ce jour-là, alors que je viens de m'installer dans un petit hôtel charmant tenu par des sœurs jumelles au tempérament bien marqué, les valises vidées, douchées et pleines de l'énergie qui précède la découverte d'une nouvelle région, j'appelle mon frère pour le rassurer. Je suis arrivée sans encombre.
Hey, Roxy Rox !
M'accueille-t-il avec enthousiasme.
Ça va, coin sympa ?
Je n'ai pas encore vu grand-chose à part l'hôtel, mais lui, il est déjà tout à fait bien. Tu aimerais beaucoup la décoration. L'une des propriétaires, Axel, est amoureuse des vieux appareils photo. Elle en a disposé un peu partout sur des étagères. Forcément, ça s'accompagne de beaucoup de photos encadrées sur les murs dans un joyeux mélange de couleurs et de tailles. Xavier s'est mis à la photographie il y a maintenant 3 ans. Le loisir est devenu une nouvelle passion. Une chance pour lui, il est plutôt doué. Et cerise sur le gâteau, Meryl adore jouer les modèles.
On a justement fait quelques clichés tout à l'heure. J'ai bien envie de faire une série sur les départs et les arrivées à la gare pour capter les différences d'émotions dans les regards de ceux qui accompagnent les voyageurs jusqu'au train.
Super idée. Je te prendrai les arrivées si tu le permets. Le reste est trop triste. Tu me passes Meryl ?
Piaf !
Hurle-t-il à moitié dans le téléphone.
Ta mère veut te parler !
Je ne sais pas d'où vient chez lui cette manie de donner des surnoms à tout le monde comme ça. Peut-être une revanche pour lui qui subit le diminutif de Xav depuis qu'il est haut comme 3 pommes. Trouver un surnom est presque ce qu'il fait en premier quand il se lie d'amitié avec quelqu'un. Et une fois qu'il en a choisi un, impossible de l'en faire changer. L'un de nos amis communs se voit appeler Pompon depuis maintenant 10 ans, parce qu'il a eu le malheur de prononcer ce mot une fois au cours de notre première rencontre. Quand on a 40 ans et qu'on est grand et carré comme un rugbyman, ce pompon n'est pas forcément du plus bel effet. Xav, Meryl va avoir 8 ans. Tu devrais envisager de l'appeler par son prénom, tentais-je mollement, connaissant l'entêtement de mon frère.
Pourquoi, c'est joli, Piaf. Et pour une enfant qui chante du matin au soir, tu admettras que c'est plutôt adapté. Tu devrais l'entendre chanter la vie en rose. Franchement, elle fait honneur à l'édite du même nom. Allô, maman ?
Nous interrompt Meryl en prenant le téléphone.
Tu sais quoi ? Tonton m'emmène voir Louane demain en concert. C'est pas trop bien ? Et en plus, on sera devant. Peut-être que je pourrais lui parler. Tu crois que je pourrais ? Ce serait trop bien si je pouvais.
Je soupire intérieurement. Mais il y a école le lendemain. Ça va te faire te coucher tard.
Tonton, il dit qu'on dormira quand on sera mort.
Ben voyons.
J'ai pas tellement envie d'être morte pour pouvoir dormir. Tu crois que c'est obligé ?
Chuchote-t-elle soudain. Non, ma princesse, rassure-toi. Je suis contente pour toi. Tu feras une bise à Louane pour moi.
D'accord. Ah, et tout à l'heure, on a vu un petit chien dans le parc. Il était trop choupignon. Est-ce qu'on peut avoir un chien, maman, s'il te plaît? Je m'en occuperai trop bien, tu sais, il pourra dormir dans ma chambre en plus.
Je ne peux m'empêcher de sourire au choupignon. Nouvelle contraction made in Meryl. Le mois dernier, c'était déchitru, mélange de déchets et détritus. Ça va devenir sa marque de fabrique. Tu sais bien qu'un chien, c'est compliqué. Je peux entendre sa tristesse dans le silence à l'autre bout du fil, alors, parce que je suis faible et sous l'emprise d'une crise importante de culpabilité, je temporise. Mais je veux bien y réfléchir.
Oh, ce serait trop bien. Bon, et il faut que j'aille répéter dans ma chambre, je dois connaître toutes les chansons de Louane par cœur pour demain. En plus, on est devant. Peut-être qu'elle m'entendra chanter. Bisous, maman.
Et ma fille repart aussi vite qu'elle est arrivée.
Je sais ce que tu vas dire.
Reprend Xavier après avoir récupéré le téléphone. Si tu le sais, pourquoi est-ce que tu n'en fais qu'à ta tête?
Parce que c'est une occasion unique. Tu sais combien Piaf adore Louane.
Oui, je le sais. Et qu'elle rêve de devenir chanteuse, je le sais aussi. Mais on est en semaine, Xav. Et Meryl a avant tout besoin de sommeil. Vous allez rentrer à pas d'heure et le lendemain, elle sera crevée. Ce n'est pas toi qu'on appelle ensuite pour dire qu'elle s'est endormie sur sa table.
Oh, n'exagère pas, ça n'est arrivé qu'une seule fois.
Oui, eh bien, c'est une fois de trop. Je t'avais demandé d'arrêter de faire des sorties en pleine semaine. Franchement, j'en ai vraiment marre que tu te contrefiches de mes consignes.
Très bien. Tu veux que j'aille lui dire que finalement on n'y va pas? Je peux tout à fait le faire et comme ça je suivrai à la lettre tes consignes, comme tu dis. Je trouverai sûrement dans ma classe des dizaines de gamines folles de joie à l'idée de voir leur idole en concert.
Bonne idée, et c'est moi qui passerai pour la mauvaise mère, encore.
Ça n'est pas un concours, Roxy Rox.
Réplique-t-il sur un ton d'apaisement, ce qui a le don de m'énerver encore plus. C'est facile pour toi de dire ça. Quand elle est avec toi, tout n'est que fête et plaisir. Pas d'heure de coucher, on mange ce qui nous fait envie. Sur le canapé, si ça nous chante, tu es super tonton trop cool, Xavier.
Et toi, tu es sa mère.
Justement. J'aimerais qu'à l'avenir, tu en tiennes un peu plus compte.
Message reçu. Je te laisse, Roxane. Il faut que j'aille préparer des haricots verts vapeur pour le dîner.
Je n'ai pas le temps de rétorquer quoi que ce soit, il a déjà raccroché. Meryl a les haricots verts en horreur. Xavier le sait aussi bien que moi. Ce n'est pas un concours. Si seulement il pouvait se rendre compte combien c'est difficile de passer derrière lui, combien le « va te brosser les dents, il est l'heure d'aller se coucher » est beaucoup moins fun qu'un concert de Louane en pleine semaine. Quoi que je fasse, quoi que je dise, je suis perdante de toute façon. Parce que je suis cette mauvaise mère qui a choisi de ne pas arrêter son activité professionnelle au bénéfice de son enfant, et celle encore qui veut lui interdire à distance d'aller voir sa chanteuse préférée. Quel que soit le scénario, on finit toujours sur un Xavier 1, Roxane 0. 3 heures plus tard, je me couche pleine de culpabilité et d'amertume, refusant d'admettre que je suis en colère contre mon frère. C'est parce qu'en réalité, j'aimerais être celle qui l'emmène voir sa chanteuse préférée en concert. C'est la dernière conversation que nous ayons eue tous les trois. Xavier, ma fille et moi. Depuis ce jour, je ne cesse d'entendre en boucle les mots que nous avons échangés. Mais rien n'y fait. Aucun « je t'aime » ni aucun « tu me manques » n'y prend jamais place. Si seulement j'avais su que c'était la dernière fois que j'entendrais leur voix. Le lendemain, vers 11h, alors que je terminais un entretien avec un coiffeur de 80 ans, toujours en activité et passionné par son métier, j'ai reçu un appel. Un de ceux qu'on redoute de recevoir lorsqu'on devient parent.
Madame, je suis au regret de vous annoncer que votre fille et votre frère ont eu un accident de voiture. Oui, c'est très grave. Je ne peux pas m'engager sur un pronostic. Si vous pouviez venir le plus vite possible.
Hélas, le plus vite possible n'a pas été assez rapide. Lorsque je suis arrivée à l'hôpital 3 heures plus tard, après avoir loué en catastrophe une voiture et conduit bien au-delà des limitations de vitesse, j'ai trouvé ma mère en larmes dans le couloir du service de réanimation, hurlant comme une bête. Mon frère et ma fille avaient succombé à leurs blessures. Je me souviens m'être rappelé cette histoire de concours et avoir pensé que pour être la perdante de celui-là, j'aurais donné tout ce que j'avais. Pendant que je recevais les condoléances de l'équipe soignante, que je signais tout un tas de documents administratifs dont je ne comprenais pas la signification, mon esprit avait comme décroché. Un cut brutal, comme si mon subconscient avait décidé d'occulter cette nouvelle insoutenable. Une sorte d'ictus amnésique, m'ont expliqué plus tard les médecins, face à un choc trop violent et qui peut durer entre 3 minutes et 24 heures. Je me suis focalisée sur une demande que m'avait faite Meryl quelques jours auparavant. Elle voulait que je lui prépare une tarte aux fraises. Je suis une piètre cuisinière, incapable de mitonner de bons petits plats. Je ne réussis que 2 recettes, la quiche Lorraine et la tarte aux fraises. Meryl en raffolait et m'en demandait régulièrement. Et là, dans la chambre d'hôpital, avec en bruit de fond les gémissements de ma mère, j'essayais de me souvenir de la recette de la crème mousseline que j'utilisais pour la tarte. Sans succès. Impossible de me rappeler le nombre d'œufs nécessaires. 2 ou 3. J'étais incapable de penser à autre chose. Et une fois rentrée chez moi, plusieurs heures après, je me suis précipitée vers le carnet dans lequel je notais des recettes, les 2 que je maîtrisais, mais également toutes celles que je projetais de faire sans jamais m'y risquer. 3 œufs. Il faut 3 œufs pour faire la crème. C'est à ce moment-là que je me suis effondrée, que les larmes l'ont emportée. Mes jambes ont cédé sous mon poids, et assise sur le carrelage de la cuisine, mon carnet de recettes à la main, ouvert à la page de celle de la tarte aux fraises, j'ai hurlé à mon tour. Puis je m'en suis voulu pour tout. Pour avoir laissé Xavier s'occuper de ma fille une fois de plus, pour ne pas avoir été moi-même au volant de la voiture, pour ne pas avoir arrêté de travailler à la naissance de Meryl. Et enfin, la colère violente, dévastatrice, a succédé à la culpabilité. De l'accident, je n'ai retenu que peu de choses, comme si mon cerveau refusait d'imprimer les détails des derniers instants de la vie de ceux qui comptaient le plus pour moi. C'est l'une des raisons pour lesquelles je redoute tant d'être présente au procès. Je ne veux pas visualiser les images de la mort de mon frère jumeau et de ma petite fille. J'ai peur qu'elles me hantent à jamais et qu'elles apparaissent chaque fois qu'un souvenir heureux avec lui ou elle réussit à se frayer un chemin dans mon esprit. Qu'à terme, il n'y ait plus rien d'autre que cet accident, plus puissant que tout et balayant tout le reste sur son passage. Je ne veux pas qu'on puisse me dire que je peux maintenant passer à autre chose, qu'il faut avancer. Je ne veux pas risquer d'oublier. Je ne veux pas voir le visage de celui qui a provoqué ce désastre. Je ne veux pas le connaître. Je ne veux pas comprendre les circonstances. Je connais son nom, et c'est déjà trop. Je suis en colère. Et je suis terrorisée à l'idée que cette colère puisse un jour me quitter. Parce que c'est la colère qui me fait tenir debout. Et qui tient à distance, ne serait-ce qu'un tout petit peu, la culpabilité.